Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.
Bonjour à tous, c'est donc le début de cette deuxième table ronde en direct de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, où la Wikiradio du CNRS a délocalisé ses studios dans le cadre des Journées nationales de l'innovation en santé. Thème de cette discussion, les nouvelles technologies pour la santé. En effet, nous vivons cette époque fascinante qui commence à nous laisser entrevoir et même parfois déjà faire l'expérience d'une médecine personnalisée, de moins en moins invasive, une médecine de précision ou qui anticipe et prévient plutôt qu'elle ne guérit. Alors ces progrès remarquables dont les conséquences sont et seront de plus en plus de moins grands risques pour les malades, une diminution des durées et du nombre d'hospitalisations, de nouveaux traitements, nous les devons pour beaucoup à l'essor et à l'arrivée à maturité de nouvelles technologies, et ce, dans un très grand nombre de domaines. Biologie, physique, sciences des matériaux, électroniques, robotiques ou encore sciences de l'information et de la communication. Sans prétendre bien sûr à l'exhaustivité, l'ambition de cette table ronde est de vous faire partager quelques-unes des innovations médicales parmi les plus surprenantes permises ou mises à portée de main par ces nouvelles technologies. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Andrès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de médecine interne au CHRU de Strasbourg et porteur du projet de télémédecine ICARE. À vos côtés, Nicolas Boquet.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur et le directeur général de la société Impeto Médical. Également avec nous, Jean Collin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à l'université de Caen, Normandie, et chercheur au laboratoire de physique corpusculaire à Caen. Oui. Dominique Collard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire pour l'intégration des systèmes mécatronics, une unité de recherche internationale conjointe du CNRS et de l'université de Tokyo. Également à cette table, Stéphane Régnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie et chercheur en micro-robotique à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique à Paris. Enfin, Anne-Virginie Salsac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CNRS, au laboratoire biomécanique et bio-ingénierie à l'université de technologie de Compiègne. Mais pour commencer, je me tourne vers vous, Dominique Collard, car vous êtes porteur d'une innovation fondée sur l'utilisation de nouvelles technologies emblématiques, les MEMS, ces micro ou nano capteurs, détecteurs, actionneurs et autres émetteurs, à la base des prouesses de tous nos gadgets électroniques, et que vous, si j'ose dire, vous avez détourné pour des applications en médecine. Ainsi, vous avez créé les BioMEMS. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement ?
Ah oui, pour vous expliquer un peu les BioMEMS, je me permettrai tout d'abord une petite chronologie.
Alors, je vous en prie.
D'accord. Donc la miniaturisation des technologies, je pense que c'est un vrai succès de l'ingénierie, vraiment. Et depuis une quarantaine d'années, cette innovation est stimulée par la microélectronique. Toujours mettre plus de composants électroniques et on en arrive au smartphone qui est vraiment un composé de technologies tout à fait extraordinaire. Voilà. Première évolution, utiliser ces technologies pour faire autre chose que de l'électronique. Par exemple, la micromécanique, la micro-optique. Nous allons voir ça avec la micro-robotique derrière. Et par exemple, même dans votre smartphone, hein, vous avez un accéléromètre qui détecte si votre écran est vertical ou pas. C'est un micromécanisme. Ça, c'est une première évolution. La seconde évolution, et peut-être une révolution, c'est d'utiliser ce terreau technologique pour faire des applications vers les biomèmes, c'est-à-dire l'utiliser pour la biologie, l'utiliser pour la santé. Et donc, c'est par exemple des systèmes microfluidiques hein, pour pouvoir traiter des petites quantités de liquide de manière très précise, c'est un coût. Ça peut être aussi des systèmes pour isoler et localiser des cellules. Et de ce fait-là, en combinant le tout, on arrive vraiment à des laboratoires sur puce qui ont un potentiel tout à fait fantastique.
Et donc pour vous, l'aventure a commencé en 2004 ?
Oui, mais on a un petit peu commencé avant parce que le CNRS a commencé à investiguer toutes ces technologies avec deux approches. Premièrement, on est en dotant des laboratoires ici en métropole, ce qu'on appelle les gros laboratoires des cercles technologiques, Renatech, et puis également avec une politique de création de laboratoires à l'étranger, notamment à Tokyo, en s'associant avec un des meilleurs instituts en ce qui nous concerne dans le domaine, qui est l'Institut des sciences industrielles de l'université de Tokyo. Et donc c'est à partir de là, en accueillant des chercheurs, en travaillant avec les chercheurs japonais, qu'on a pu contribuer et même, je dirais, inventer, accompagner ce développement technologique. Et pourquoi de 2004 ? Parce qu'on a suivi toute la filière technologique. En 2004, on a réellement mis la priorité sur les biomèmes.
Alors qu'est-ce que vous avez concrètement inventé comme biomèmes qui vous a permis en 2011 de sortir du laboratoire pour monter des projets avec des cliniciens ?
D'accord. Alors bon, on cherchait une idée de telle manière à faire un transfert de technologie en France pour équilibrer un peu les accords, enfin disons, etc. Et on a une occasion, une opportunité, parce qu'à Lille, Lille avait été labellisée par l'Agence nationale du cancer avec le CIRIC oncologique pour faire de la recherche originale. Et ce qu'on a fait, on s'est dit, bon, combiner ces biomèmes et la recherche sur le cancer, ça peut être intéressant. Et une des premières applications originales qu'on a pu faire, c'est de pouvoir essayer de comprendre quel est le mécanisme en temps réel de dégradation de l'ADN en radiothérapie. Typiquement, ce que l'on a fait, c'est on a pris une fibre d'ADN, on a directement placé cette fibre d'ADN sous un rayonnement et en mesurant les caractéristiques mécaniques de cette fibre d'ADN, on a pu voir en temps réel la dégradation de l'ADN, qui est un des mécanismes qui intervient lorsqu'on fait de la radiothérapie. L'ADN est dégradé, les cellules avec cet ADN dégradé ne peuvent pas se reproduire, et de ce fait-là, la tumeur a tendance donc à rétrécir. Mais pour aller vers la médecine personnalisée, les médecins, les radiothérapeutes voulaient en savoir un peu plus. Et donc, on a inventé ce procédé, cette technologie originale.
Ce biomème, ce que vous pouvez peut-être nous décrire un peu, parce que c'est difficile de se représenter ce type d'objet pour les profanes que nous sommes.
Voilà, donc vous regardez, ça ressemble à une petite pince épilée, avec des pointes extrêmement fines. Entre ces deux pointes, vous mettez une fibre d'ADN et vous équipez votre pointe, et puis de telle manière à pouvoir écarter l'ADN. C'est comme une guitare, si vous voulez. Et on mesure sa fréquence de résonance. Et ben, vous avez le corps de guitare. Au fur et à mesure que vous irradiez, vous avez une dégradation de la fibre, c'est-à-dire que votre corde se dégrade et vous allez vers les sons les plus graves. On fait rigoureusement ça et on peut le voir en temps réel durant les radiations.
Parce que jusqu'à maintenant, cette dégradation de l'ADN au cours d'une radiothérapie, c'est très mal connu.
Mais il n'y avait aucun moyen de faire ça vraiment donc en temps réel. Typiquement, les gens faisaient une caractérisation de l'ADN avant, faisaient une irradiation, caractérisation de l'ADN après. Mais ce qui se passe, il peut y avoir énormément de pollution. On ne sait pas quels sont les mécanismes qui sont réellement donc en présence. Tandis qu'en regardant ça vraiment en temps réel, on a effectivement l'information.
Donc vous avez travaillé avec des instruments de radiothérapie, avec des patients, où en est le projet exactement ?
D'accord, donc les technologies ont été développées à Tokyo, on les a transplantées, on a fait un transfert de technologies, on travaille directement donc à l'hôpital, au centre Oscar-Lambret, donc à Lille, et on utilise donc un système de radiothérapie, on a installé tout le setup, je dirais, et à ce moment-là, après, en soirée, une fois que tout le matériel a été utilisé pour soigner les patients, en soirée, durant la nuit, on a le plaisir de pouvoir utiliser ces belles machines pour faire nos expériences. Tout à fait.
Et pour une utilisation, je dirais, en routine à l'hôpital, on se place à quelle échéance ? Puisque là, tout l'enjeu, c'est une médecine tout à fait personnalisée, d'aller scruter l'ADN en direct du patient au cours de son traitement.
C'est une voie, c'est très difficile à dire quand on va pouvoir effectivement faire ça. Ça se compte en dizaines d'années. Il y a tous les protocoles à faire. Il faut que ça puisse être accepté par toute la régulation. Donc, voilà. Mais c'est une voie originale et on va continuer dans cette voie-là, j'en suis sûr. Voilà.
Alors avec vous, Jean-Colin, nous allons rester dans le domaine des traitements contre le cancer, mais cette fois-ci vu sous l'angle d'un physicien des particules protons ou noyaux d'atomes, qui s'avère être une arme prometteuse pour le traitement de certaines tumeurs. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer la raison ?
Oui, la raison, elle est que pour le moment, aujourd'hui, on fait essentiellement des traitements en radiothérapie X. Si vous voulez, sur 300 000 nouveaux cas par an de découverte de cancer, 150 000 patients vont avoir de la radiothérapie, pas forcément seuls, mais associés avec de la chirurgie, de la chimio, mais vont avoir de la radiothérapie. La situation aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près 50% de prise en compte des problèmes et de guérison. Ce qui est déjà très bien, mais malheureusement 50% d'échecs également, avec deux raisons principales. La première raison, c'est les métastases, des cellules indésirables qui ont été migrées dans d'autres compartiments. Et l'autre raison, c'est une non-stérilisation de la tumeur et un redémarrage de cette tumeur initiale. Alors là, le problème, il est essentiellement lié à de la balistique. On a énormément fait évoluer les machines en X pour mieux résoudre ce problème et tirer au plus juste un maximum d'énergie et de dose au niveau de la tumeur pour la détruire. Le problème que l'on rencontre en faisant ça, c'est qu'avec les photons X, on laisse de l'énergie sur toute la trajectoire, sur tout le faisceau. Donc on a fait des machines beaucoup plus précises avec des faisceaux plus fins et on peut aller, en regardant ce que l'on dépose à l'intersection de ces faisceaux, déposer la quantité d'énergie que l'on veut sur la tumeur. Et plus on a de faisceaux pour faire ça, plus on peut faire des choses fines et précises. Donc on a de grands progrès, d'énormes progrès qui ont été faits en X.
C'est en X.
En X, oui, oui. Et ça s'appelle tomothérapie, ça s'appelle CyberKnife, ça s'appelle IMRT. Et toutes ces machines permettent d'augmenter la précision. Mais je répète, on laisse de l'énergie sur toute la trajectoire. D'où l'idée d'utiliser des particules chargées, parce que ces particules chargées, dans un matériau donné, ont un parcours donné.
Des protons d'atomes.
Ou des noyaux de carbone sont chargés. Ils ne comportent que les protons qu'ils ont à l'intérieur de leur noyau comme charge. Et ces particules ont la particularité, pour une vitesse donnée, de s'enfoncer à une profondeur donnée. Et rien après. Si vous préférez, vous prenez des flèches dans une balle de paille ou des balles dans un sac de sable, c'est exactement la même chose. La vitesse de votre flèche définit et les caractéristiques de votre balle de paille. Ils vont définir la profondeur à laquelle ça va s'enfoncer. C'est pareil avec des protons. Donc on a, avec ces faisceaux de particules, la possibilité de ne pas déposer d'énergie au-delà de ce que l'on a choisi, de ce que l'on a fixé. Donc pour toute pathologie avec des organes à risque sur des trajectoires, vous pouvez par exemple le traiter en protons, en carbone, avec une meilleure efficacité. Le deuxième atout, c'est que ces particules déposent plus d'énergie en fin de parcours. Donc on a naturellement avec ces particules un avantage qui est de déposer plus d'énergie au niveau de la tumeur qu'en entrée où vous avez a priori des tissus sains. Donc la difficulté n'a jamais été de déposer assez d'énergie dans les tumeurs. La difficulté, c'est de ne pas détruire les tissus sains qui sont sur la trajectoire. D'où l'avantage, avec ce que je viens de vous dire, des protons et des carbones.
Alors évidemment, l'enjeu, ce n'est pas de remplacer la radiothérapie par des techniques à base de particules chargées, mais c'est de traiter un certain nombre de cancers pour lesquels la radiothérapie, pour les questions que vous décriviez tout à l'heure, pose problème.
Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples, justement, de ces pathologies ou des configurations dans lesquelles on peut avoir recours à la protonthérapie ou à des noyaux atomiques ?
Oui, c'est extrêmement important. Vous voyez, par rapport à ce que l'on vient de dire sur le nombre de patients, au niveau mondial, vous avez à peu près 50 centres de traitement proton en protonthérapie. Et depuis les années 90, on a traité environ 100 000 patients, un peu plus de 100 000 patients. Au point de vue carbone, on a 8 centres au monde, au Japon, en Allemagne, en Italie. Et on a traité, au niveau carbone seulement, 13 000 patients depuis les années 2000. Alors, même si ces chiffres sont en grande évolution, vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc, il s'agit vraiment de nouveaux outils pour aller chercher des pourcentages de guérison de mieux que ce que j'évoquais tout à l'heure. Il ne s'agit en aucun cas de remplacer les X. On continuera à faire un maximum de traitements en X, en nombre, mais pour certaines pathologies ou pour certains types de tumeurs qui sont radio-résistantes X.
Lesquelles, par exemple ?
Par exemple, des tumeurs hypoxie. Les X agissent essentiellement de façon indirecte en créant d'abord des radicaux qui vont aller, par exemple, attaquer l'ADN. Les carbones agissent directement sur l'ADN. Et donc, même si vous avez des tumeurs hypoxie, le carbone peut atteindre ces tumeurs. Donc, si vous imaginez tout simplement des localisations où vous ne pouvez pas intervenir en chirurgie, vous ne pouvez pas intervenir en chimiothérapie, si elles sont hypoxie, on ne va pas savoir non plus aller envoyer de produits dans ces tumeurs. Alors, le carbone est un outil extrêmement important, d'autant plus qu'il a une efficacité biologique de destruction plus grande, même que les protons et que les X, en tout cas.
Alors, en ce qui concerne la protonthérapie, il existe en France déjà deux centres pour ce type de traitement.
Absolument.
Par contre, pour le carbone, je crois qu'il n'y en a pas encore. Qu'est-ce qui est envisagé pour offrir cette technologie, y compris dans l'Hexagone ?
Alors, au niveau français, on a effectivement deux centres de protonthérapie, un à Orsay et puis un à Nice, le centre Antoine Lacassagne de Nice. Donc, ces deux centres, aujourd'hui, vont devoir augmenter. On a des besoins en protonthérapie qui sont plus grands que cela, mais l'évolution est lente. On a un troisième centre qui va arriver en fonctionnement à Caen dans le cadre du programme ARCAD de traitement des, en protons de patients en 2018. Et le programme ARCAD consiste aussi, est un centre de ressources et de recherche en hadron thérapie. Nous aurons également une machine carbone qui va délivrer des faisceaux de protons, d'alpha, de lithium, de bore, tous les A sur Z égale 2, jusqu'au carbone. Et il a comme objectif, cette machine nous permettra de faire de la recherche en physique, en biologie et en clinique, pour justement préciser les intérêts et les avantages de ces différentes particules, essentiellement les ions carbone, mais des autres particules que j'ai citées également.
Parce qu'à terme, l'ambition, c'est de pouvoir dire quelle technique utiliser précisément en fonction du type de cancer et de sa localisation, radiothérapie, protonthérapie, noyau de tel ou tel atome.
Oui, c'est effectivement un des enjeux importants. On est en train d'ajouter des outils pour effectivement combattre ce problème de cancer. Et là, on ajoute des outils qui vont permettre effectivement de gratter dans ces pourcentages et d'augmenter le taux de succès. Donc pour faire ça, une fois qu'on aura ces différents outils, il va falloir être capable de préciser lequel est le meilleur dans une situation donnée. Ça, c'est pas du tout évident aujourd'hui. Ça se passe presque qualitativement comme je vous l'ai décrit auparavant. Si on ne sait pas faire en X, on essaye d'utiliser un autre outil. Mais vous voyez que derrière ce que je viens de dire, il n'y a pas d'optimisation encore à ce jour. Donc ce qu'il faut, c'est savoir pour une pathologie donnée, pour un patient donné, quel va être le meilleur, effectivement, comme vous l'avez dit, de ces outils à utiliser demain. Et ça, aujourd'hui, on n'a rien. Pour faire ça, il faut être en mesure de simuler, de modéliser absolument toute la chaîne du traitement, absolument toute cette chaîne. Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas fait. Donc, on a, depuis un an, on travaille sur un projet qui s'appelle Plateforme de modélisation en radiothérapie, PMRT, et on a l'objectif de partir des différents types de particules, X, proton, carbone, de la différente manière dont on va appliquer le traitement. On parle, vous avez évoqué la problématique du temps que va passer un patient, du nombre de séances qu'il va avoir. Et on est en train de travailler sur de l'hypofractionnement, c'est-à-dire un moins grand nombre de séances de traitement. Mais ça va complètement changer les réponses biologiques à un traitement, même si vous avez apporté la même dose physique. Et pour juger de cela, il faut disposer d'une modélisation complète depuis la particule, la façon dont vous délivrez cette particule dans le patient, ensuite les effets biologiques, physiques d'abord, biologiques ensuite que vous allez provoquer, mais surtout les effets cliniques. Et il faut avoir relié toute cette chaîne de A à Z, et il faut avoir modélisé toutes ces étapes, savoir les relier, et savoir justement après pouvoir dire, voilà de quelle manière je vais faire au mieux pour ce patient-là. Donc on a lancé ce programme il y a un an, et on vient justement de répondre à un appel à projet physique cancer sur ce projet pour nous aider à constituer une base clinique. On a besoin de données cliniques, évidemment, pour faire ce que je viens de vous dire. Et on travaille là-dessus. Ce n'est pas le seul sujet de développement, évidemment. Hein, on en a beaucoup d'autres.
Mais c'est déjà beaucoup. Alors, il y a une autre science à laquelle on pense lorsque l'on parle de nouvelles technologies. C'est bien évidemment la robotique. Et c'est votre spécialité, Stéphane Régnier. Et vous êtes un spécialiste précisément des micro-robots. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'idée générale de ce type de robot ?
Alors, l'idée générale était de repenser un peu les applications des robots et de se dire que avoir des robots à la taille des objets qu'on veut soit manipuler, soit caractériser pouvait être une solution originale. Donc, depuis quelques années, en bénéficiant des résultats en microtechnologie, on a, et donc, dont a parlé tout à l'heure Dominique, on a réfléchi à concevoir des robots, c'est-à-dire des systèmes capables de se déplacer et de faire des opérations, c'est extrêmement important, d'accord, de façon petite et à des tailles qui soient compatibles, par exemple, avec des tailles de cellules ou avec des endroits où qu'un gros système est incapable d'atteindre.
Et donc vous êtes en train de développer un de ces robots. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Alors il est micrométrique, il mesure combien ? Il ressemble à quoi ?
Alors c'est vraiment très important. Sa taille, c'est une 20 ou 30 microns. Ça dépend de ce que, bien évidemment, des applications. Donc c'est 100 fois inférieur à l'épaisseur de votre cheveu. D'accord ? Il est invisible à l'œil humain. On le conçoit en utilisant les microtechnologies et en lui donnant une forme particulière, d'accord ? Qui est une forme de tire-bouchon. Parce qu'en fait, on s'intéresse à reproduire ce que fait la nature. Et dans les petits endroits où il y a des liquides visqueux, c'est une application, par exemple, dans le sang humain, l'une des façons de faire pour se déplacer dans ce sang est d'avoir une forme en tire-bouchon, D'accord. Et si vous êtes capable d'avoir le tire-bouchon, vous allez être capable de vous déplacer. Donc notre première problématique a été de réfléchir à le nombre, la taille, l'épaisseur du tire-bouchon, la tête du tire-bouchon, et puis être capable ensuite, une fois qu'il a été conçu, de le contrôler.
Alors pour le contrôler, justement, ce robot n'est pas équipé de palmes ou de moteurs, j'imagine, vu sa taille.
Alors c'est un petit peu la différence par rapport à la robotique classique. Vous êtes dans une toute petite échelle, donc vous ne pouvez pas embarquer d'énergie. Donc, par contre, vous pouvez avoir de l'énergie qui est à l'extérieur. Donc on utilise pour ça un effet magnétique, d'accord, qui va être à l'échelle de microscopique, l'effet magnétique est beaucoup plus important et est capable de déplacer. Donc si vous faites un champ magnétique tournant, vous êtes capable de faire tourner votre micro-robot, donc il va se déplacer. D'accord ? Et puis, en utilisant l'effet inverse, vous êtes capable de le localiser en utilisant, par exemple, de la même effet, l'effet magnétique. Donc, si vous êtes capable de le localiser, vous êtes capable de le contrôler pour atteindre des positions qui étaient avant inatteignables, encore une fois, par des systèmes classiques.
Donc un micro-robot capable de se déplacer dans le sang de la taille d'une cellule pour agir au niveau même d'une cellule, à quoi peut servir à terme un tel robot ?
Alors évidemment, on est très amont par rapport à toutes les discussions qu'on a eues, mais l'idée de base, là, c'est de se dire qu'on pourrait faire de la thérapie localisée, amener quelque chose à un endroit inatteignable, on pourra faire de la biopsie, essayer de ramener un morceau quelque part, on pourrait l'utiliser comme un capteur, quelle est la mesure dans votre œil de l'oxygène, si vous arrivez à aller dans un endroit qui est inutilisable, vous lui mettez un petit marqueur, on pourrait l'utiliser pour regarder si certaines cellules ont des réponses particulières, avec la tête, on pourrait par exemple lui mettre une protéine et aller localiser quelque part une cellule et voir si cette cellule répond à cette protéine. Donc on a vraiment des applications dans lesquelles on parlait au début de non-invasif. Donc là c'est vraiment notre cas. On essaye d'atteindre des positions jamais atteintes en effet par les systèmes classiques.
Alors vous l'avez dit vous-même, on n'en est pas encore tout à fait là d'avoir ces micro-robots qui circulent à l'intérieur de notre corps. Pour autant, vous êtes en train de lancer un projet tout à fait concret en collaboration avec l'établissement français du sang. En quoi consiste-t-il ?
Alors, je crois qu'il faut bien comprendre, quand on parle micro-robots dans le corps humain, il faut être prudent, chaque étape est importante. Donc avant de faire ça, on va travailler sur ce qu'a expliqué aussi Dominique, qui sont les laboratoires sur puce. C'est une application extraordinaire des micro-robots, c'est-à-dire que vous avez un petit laboratoire et vous avez un petit robot qui va être capable de faire des opérations. Et donc pour l'établissement français du sang, l'un des enjeux, c'est que dans une population d'un million de cellules, ils veulent repérer ou faire une action sur 2, 3, 4 cellules, et donc notre petit robot va être capable de se déplacer dans ce système et d'aller faire cette opération qui est une fois de trier, une fois d'appuyer, une fois de faire une opération très localisée. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, pour la micro-robotique, un avenir très important.
À quelle échéance ?
Alors, là, nous, ce que nous avons aujourd'hui, hein, c'est des micro-robots capables de se déplacer et d'être contrôlés en position, en orientation dans l'espace, capables de déplacer un objet, capables d'amener une protéine à une position, mais tout ça dans un environnement purement artificiel. Le projet dont on a parlé sur le sang, on espère que dans 5 ans, on sera capable de le résoudre. Et les aspects de corps humain, et on en a déjà bien assez parlé aussi, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour les certifications, mais on espère dans 10 ans avoir des premières opérations, bien évidemment, sur des animaux.
Donc bientôt, en tout cas, l'échéance d'une décennie de micro et des nano-objets à l'intérieur de notre corps. Mais pour autant, ça fait déjà un moment que les stents, les cathéters ou les valves cardiaques sont des réalités d'objets artificiels introduits dans nos organismes. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on peut les concevoir avec les outils les plus récents des sciences des matériaux et de l'hydrodynamique et encore de l'étude des milieux complexes et de la matière molle. Et c'est ce à quoi vous vous employez, Anne-Virginie Salsac.
Oui, tout à fait. Je pense que lors des 20-30 dernières années, il y a vraiment eu un changement du mode opératoire et des techniques de chirurgie. On est passé de la chirurgie invasive, donc ouverte, à une chirurgie peu invasive, donc minimalement invasive, où on va faire finalement utiliser des dispositifs biomédicaux implantables qu'on va amener directement à l'endroit à traiter, qui peut être dans le cerveau, s'il faut réouvrir un vaisseau qui s'est bouché, utiliser un stent, donc un petit ressort petits dispositifs métalliques qu'on va amener, ça peut être dans les coronaires au niveau du cœur, et tout ça, on va le piloter, on va l'amener à partir de l'aine en faisant une petite incision. Donc toutes ces technologies qui sont apparues maintenant sont déjà utilisées en routine, mais c'est vrai que de jour en jour, l'innovation sur ces dispositifs-là va être de trouver de nouvelles applications et d'améliorer les dispositifs. Parce qu'il y a des idées qui ont germé, qui sont sur le marché, et finalement, après, avec l'expérience, on peut voir qu'il y a des choses à améliorer. Donc on voit au niveau des stents que là, à l'heure actuelle, les recommandations vont être, on va poser des stents sur des temps, enfin, après une crise cardiaque par exemple, donc pendant les premières 24 heures, il y a vraiment un intérêt thérapeutique à avoir posé un stent. Peut-être qu'il diminue si c'est au-delà de 24 heures. Par contre, on est en train de penser à des stents biorésorbables. Et donc, voilà le genre de choses. Pour les prothèses vasculaires, il y a des prothèses qui commencent à être poreuses, alors que jusqu'à là, elles ne l'étaient pas. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont en train d'être développées et on voit qu'il y a un besoin d'innovation constant.
Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un ou deux exemples concrets de la manière dont les disciplines dont vous êtes spécialiste permettent justement d'améliorer les propriétés de ces objets qui sont bien connus des malades ?
Oui, tout à fait. Bah, prenons un exemple qui est justement qui diffère un petit peu. Je vais vous parler de colle chirurgicale. Une technique donc pour boucher des vaisseaux, il y a des moments où on a besoin de boucher des vaisseaux, soit parce qu'ils sont anormaux, ou parce qu'on a besoin d'emboliser. Emboliser, c'est le fait de boucher des vaisseaux, emboliser pour enlever dans des endroits de tumeurs et autres. Donc il y a diverses applications pour ces techniques d'embolisation. Et une technique, ça va être d'utiliser des colles chirurgicales. Ces cols sont utilisés depuis les années 90. C'est une technique qui avait été développée d'ailleurs au Japon, on parlait du Japon avant, et qui est utilisée en routine par des radiologues interventionnels. Et finalement, il n'y a eu aucune étude fondamentale. Donc on reste avec une utilisation purement empirique, et ce qui pose un problème non seulement de contrôle finalement de l'utilisation de ces cols, et aussi de formation des radiologues interventionnels et des médecins. Merci. Donc c'est vrai que c'est quand il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement, où il y a une petite part d'incertitude, c'est toujours difficile de transmettre les informations et de former. Donc du coup, c'est une problématique sur laquelle on va travailler, qui est assez innovante, qui va coupler des problématiques de mécanique des fluides, de biomécanique des fluides, puisqu'on va avoir un fluide qui est injecté, c'est la colle liquide. Cette colle, une fois injectée, elle est déjà injectée dans un fluide co-courant qui est en écoulement juste autour.
C'est un fluide très complexe.
Qui est un fluide complexe, qui est le sang, avec des propriétés rhéologiques, donc des propriétés mécaniques complexes. On a la colle qui va réagir chimiquement et on a la polymérisation qui va commencer. Et donc, on a un couplage complexe entre plusieurs phénomènes physiques.
Et pour les étudier,
nous, dans ce cas-là, comme là, il y a vraiment un intérêt à réutiliser les matériaux utilisés chez le patient. Donc, on va étudier ça en in vitro, donc dans le laboratoire, en recréant des vaisseaux, des expériences de fantômes de vaisseaux, et recréer les mêmes conditions d'écoulement, les mêmes conditions d'utilisation de la colle qu'on va recréer dans le laboratoire pour étudier les phénomènes de polymérisation et le couplage avec les injections et l'écoulement sanguin. Donc ça, c'est un exemple. C'est vrai qu'après, si je change d'échelle, on va également... ce qui est passionnant avec l'écoulement sanguin, c'est qu'on a toutes les échelles de la macrocirculation jusqu'aux écoulements aux plus petits vaisseaux. On vient de parler il y a quelques minutes avec Stéphane Régnier, de micro-robots, et donc on va avoir des particules finalement mobiles et qui vont être actives, mais on peut aussi penser à des particules passives. Et donc
je travaille les fameuses
micro-capsules sur lesquelles nous travaillons énormément dans l'équipe. Donc ces micro-capsules pouvant avoir un grand intérêt pour amener des médicaments, et dans différents domaines.
C'est de mettre dans une micro-capsule, donc grande comme une cellule, des médicaments, et d'amener cette capsule avec son médicament à l'intérieur jusqu'à l'endroit à traiter.
Voilà. Et donc là, pour ces échelles-là, donc on va être un peu plus petit en général que des cellules. Si on veut être par labor vasculaire, il faut être maximum à 2-3 microns, un peu dans ces tailles-là, et on va jusqu'aux échelles nano. Donc on est entre des nanoparticules ou nanocapsules et microcapsules. On est dans ces échelles-là. Et la question, ça va être... Donc nous, ce qui va nous intéresser en tant que spécialistes de biomécanique des fluides, de tout ce qui est écoulement vasculaire et des interactions. Ça va être comprendre l'interaction entre ce petit vecteur qui est une goutte encapsulée dans une membrane et l'écoulement sanguin à l'extérieur, et de voir comment cette capsule va se déformer et s'écouler, quelles vont être ses trajectoires, comment designer ces objets pour leur donner les propriétés mécaniques qu'on souhaite, pour qu'ils aillent à l'endroit voulu, etc.
Où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui ? Est-ce que demain, on aura ces micro-capsules qui amèneront l'aspirine jusqu'au mal de tête ?
Je pense que c'est déjà devenu une réalité. Donc on est aux premières phases, à l'heure actuelle, d'utilisation et de validation, finalement, par les instances médicales de ces dispositifs. Donc c'est quelque chose où la science-fiction devient réalité à l'heure actuelle, mais il y a encore énormément à faire. Ce qui va être à l'heure actuellement mis sur le marché, ça va plutôt être des nanoparticules, des objets de taille plutôt nanométrique, donc plutôt rigides.
Il faut les fabriquer d'abord ?
Il faut les fabriquer. On a il faut faire en sorte que les médicaments puissent y être contenus. Il faut faire en sorte après qu'ils puissent... targeter ou aller atteindre leur objectif. Donc il y a tous les problèmes de ciblage et après d'administration et de savoir quel est l'effet. Il faut aussi travailler sur le relargage. Donc on travaille aussi beaucoup sur ces problématiques-là, de coupler, de s'intéresser au couplage, après au relargage. Il faut regarder les cinétiques de relargage.
Alors on comprend bien, la chaîne est immense, tous les travaux qu'il y a à mener pour arriver à faire une réalité de ces innovations, de ces idées. Est-ce que vous pouvez donner un exemple précis, concret, de ce que vous faites au laboratoire pour que ça devienne une réalité ?
Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de comprendre les écoulements et les déformations de ces objets. Donc on va travailler sur, et le couplage après, ce qui nous intéresse dans les années à venir, ça va être le couplage avec le relargage. Donc on va s'intéresser à des... On va beaucoup utiliser l'abord de la simulation numérique, parce qu'à ces échelles-là, l'expérience ne permet pas de remonter à toutes les informations. Donc c'est par exemple connaître les contraintes pour savoir si une capsule va comment elle se déforme, est-ce qu'elle va se rompre sous l'effet des forces de l'écoulement et de déformation. Seule la simulation numérique peut nous amener ces informations. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de coupler approche numérique, où on va développer nos propres codes de simulation numérique et autres, qui sont des codes en interaction avec les structures, donc sur le plan mécanique, c'est des problèmes très intéressants. Mais si on le couple à des expériences, on va pouvoir aussi développer des outils très intéressants, parce qu'on va pouvoir remonter aux propriétés mécaniques. Et c'est un peu ce que nous disait Dominique Collard. Quand on couple une expérience avec des modèles derrière, on arrive à trouver les propriétés de ces objets. Et quand on travaille sur des nano-objets ou des micros, à toutes ces échelles-là, donc on arrive à développer des techniques très fines qui couplent des MEMS, microfluidiques et toutes ces technologies-là pour remonter aux propriétés mécaniques et caractériser ces objets. Donc c'est toutes ces applications et ces outils qu'on met en place.
Vous vous retrouvez, Dominique Collard, dans ce que décrit Anne-Virginie Salsac, de la manière de travailler, de la manière de fabriquer, de développer ces tout petits objets invisibles.
Absolument. En plus, en s'appuyant sur le savoir-faire français, avec une bonne connaissance, je dirais, théorique, et puis d'avoir un continuum de simulation jusqu'à la réalisation des objets, et puis également pour profiter de l'expérience de la recherche clinique qui est très, très ouverte en France. On est vraiment dans un environnement extraordinaire pour faire ça, oui, tout à fait.
Alors on a vu avec ces exemples l'enjeu ici de mieux soigner, mais les nouvelles technologies permettent également aujourd'hui de prévenir. Et c'est notamment tout l'enjeu du projet Investissement d'avenir que vous portez, Emmanuel Andrès, et qui vient d'arriver à terme. Ce projet, c'est le projet de télémédecine ICARE, qui vise à anticiper les signes de décompensation avant même la survenue des premiers symptômes chez les patients insuffisants cardiaque, et ce faisant, qui vise à diminuer le nombre des réhospitalisations. Quel est le principe de ce projet, Emmanuel Andrès ?
Donc déjà, l'insuffisance cardiaque, c'est un problème de santé publique, puisqu'il y a 1 million de patients insuffisants cardiaques et 120 000 cas, à peu près, nouveaux cas par an en France. Et donc c'est un problème du quotidien. Le problème de ces patients, c'est effectivement les problèmes de réhospitalisation. Et donc c'est des gens qui, tous les ans, sont hospitalisés à plusieurs reprises en raison d'une décompensation de leur insuffisance cardiaque. Et donc, on s'est posé la question de comment faire en pratique pour que ces gens-là, finalement, restent plus longtemps sur leur lieu de vie, en bonne santé. Et donc, on a développé un système qui est le système ou la plateforme ICARE, donc qui est une plateforme qui allie de l'intelligence artificielle, des outils du quotidien, de la communication, comme on sait le faire aujourd'hui avec les smartphones, les PC et autres. Et donc, on déploie ce système-là. C'est un peu l'hôpital qui vient au chevet du patient directement à son domicile. On l'équipe avec les capteurs médicaux. Il a une tablette sur laquelle il peut interagir, sur laquelle on peut faire de l'éducation thérapeutique et aussi de l'observance. Et surtout, on a derrière de l'intelligence artificielle qui nous permet en temps réel d'interpréter les constantes physiologiques du patient. Donc, c'est adapté vraiment. Ça, là, pour le coup, c'est personnalisé vraiment à chaque patient, à son traitement, à son état qui évolue, son état de santé qui évolue dans le temps. Et donc, le système permet de détecter en temps réel des signes vraiment précurseurs de décompensation cardiaque, quasiment 5 jours avant. Et donc, ça nous laisse le temps soit de revenir vers le malade, de revoir que finalement l'observance est correcte sur le plan médicamenteux, des règles hygiéno-diététiques. Et sinon, ça nous permet d'interagir avec les professionnels de santé, avec l'infirmière, éventuellement s'il y a une infirmière qui se déplace, avec le médecin traitant ou le cardiologue. Donc l'idée vraiment, c'est d'empêcher les décompensations cardiaques et de maintenir ces gens-là sur leur lieu de vie, parce qu'on a montré qu'éventuellement, la qualité de vie de ces patients était totalement changée.
Ces patients sont donc équipés après leur premier passage à l'hôpital par ce dispositif. Ils rentrent chez eux et en cas de problème, une information sonne sur le bureau du médecin, du cardiologue, de l'infirmière. C'est comme ça que ça se passe.
Voilà, donc au CHU Strasbourg, donc, on a mis en place une filière sur l'insuffisance cardiaque. Donc les patients sont hospitalisés soit en cardiologie, soit dans mon service en médecine interne. Au décours de l'hospitalisation, ils sont équipés d'une petite valisette qui contient tous les capteurs qu'ils amènent à leur domicile ou en EHPAD. Ou même en vacances s'ils veulent. Et donc ils se prennent les mesures une ou deux fois par jour selon un protocole très strict. C'est transmis en temps réel à un serveur qui héberge de l'intelligence artificielle. Et de là, les constantes sont analysées. Tout va bien, il ne se passe rien. Le malade va bien, il n'y a pas besoin de l'inquiéter. S'il y a une petite dérive par rapport à la normale, il y a une alerte orange qui est générée. Et celle-ci peut être transmise. Alors pour l'instant, comme c'est encore un projet de recherche, elle est transmise à notre équipe. Mais à terme, elle sera transmise éventuellement soit à une plateforme d'infirmière, soit à l'infirmière du patient, soit au médecin traitant, soit au cardiologue. Ce qui permet à ce moment-là, encore une fois, d'agir très en amont, de réadapter la thérapeutique. Et surtout, un challenge qui est important, c'est l'observance. C'est une pathologie chronique, les patients prennent beaucoup de médicaments. Et donc, un des challenges en médecine, c'est de faire qu'au long cours, ils continuent à prendre ces médicaments. Et grâce à la plateforme là, et à la tablette qu'ils ont à la maison, on peut faire de l'éducation, vraiment revenir vers eux pour vraiment les inciter à prendre leurs médicaments.
Ce que vous voulez dire, c'est que l'observation de certaines dérives peut être le signe que le patient a arrêté son traitement.
Tout à fait. La plupart du temps, ou a relâché ses mesures hygiéno-diététiques, a repris beaucoup de sel, voilà. Donc ça permet vraiment de suivre ça en temps réel. Après, l'information peut aller sur le smartphone du médecin, soit sur son PC dans son cabinet. Il peut réagir en temps réel ou il peut voir les alertes à midi, le soir, enfin comme ça l'arrange, quoi.
Alors ce qui est intéressant, ce que ça dit de la manière dont avancent les innovations en médecine, c'est que finalement ici c'est le couplage d'instruments médicaux classiques, le stéthoscope, peut-être le tensiomètre, mais couplé avec les outils modernes de la communication.
C'est ça. Donc en fait, c'est parti d'une problématique qu'on a identifiée au niveau du terrain, les médecins. On a fait appel à des ingénieurs de l'UTBM, à une start-up, une start-up qu'on est en train de créer. Il y a une entreprise qui a une spécificité autour de l'informatique et sur laquelle on avait déjà beaucoup travaillé, qui s'appelle UOL. Et un centre de l'autonomie qui a beaucoup d'expertise au niveau de la prise en charge des patients, notamment handicapés. Donc on a créé un consortium, on a monté ce projet ICARE. Et en fait, on utilise les outils du quotidien, du médecin, mais qui ont la particularité, pour le coup, là, d'être connectés. Et c'est vraiment, comme ça a été souligné avant, l'environnement français qui permet finalement très rapidement de passer d'une problématique qu'on a identifiée à de la recherche plus fondamentale, à des innovations, et on revient sur le terrain. Et donc ce projet a été, donc les outils, toute la plateforme a été validée au CHU de Strasbourg. Hein, ça c'est vraiment ICAIR qui a été d'ailleurs lauréat de la Fondation de l'Avenir. Hein, et actuellement on est en train de déployer ce projet en accord avec l'ARS, la Caisse primaire d'assurance maladie, dans la région strasbourgeoise, aussi avec les élus de la région Alsace, ou la nouvelle grande région on va dire, et la communauté urbaine de Strasbourg. Donc on déploie ce système en ville. Et donc on a été déjà équipé un certain nombre de patients qui sont suivis donc en temps réel. Et voilà.
Combien de patients aujourd'hui ?
Pour l'instant, on a moins d'une dizaine de patients parce que ça a un petit coût, comme dit, d'avoir l'équipement. Donc actuellement, on est en train de répondre à plusieurs appels d'offres institutionnels pour avoir du financement, pour acheter le matériel, entre guillemets. Et surtout, il y a un projet qui est porté par la Caisse primaire d'assurance maladie qui s'appelle Prado, qui est un projet donc, qui permet de fluidifier le parcours de soins des instants cardiaques au décours de l'hospitalisation. Et on est en train d'essayer de faire rentrer la plateforme ICAIR dans ce projet Prado, qui est un projet national. Et donc, ça serait vraiment très complémentaire de ce qui est en place. Là, on mettrait juste en plus la plateforme, l'outil, l'intelligence artificielle, on médicaliserait ça. Et ça serait vraiment un progrès spectaculaire pour ces patients qui, encore une fois, sont réhospitalisés 2-3 fois par an, avec un coût pour ces patients sur leur qualité de vie qui est très mauvaise, et puis un coût aussi pour les dépenses de santé qui ne font que malheureusement augmenter.
Et concrètement, avec ce que vous avez dit du déploiement de ce projet, on peut s'attendre à traiter combien de patients et à quelle échéance, et quel est votre objectif ?
L'échéance, c'est de traiter 100 patients dans l'année qui vient, de montrer qu'il y a une pertinence sur le plan médico-économique, et encore une fois, comme Prado est déployé dans l'ensemble, pour l'instant sur une dizaine de régions en France, c'est vraiment d'équiper progressivement l'ensemble du territoire français de cette innovation.
Alors dans le même esprit, il y a cet appareil que propose votre société, Nicolas Bocquet, la société Impeto Médical, soit un appareil capable de détecter de manière indirecte mais pertinente un certain nombre de neuropathies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'une part le principe de cet appareil et d'autre part le type de pathologie qu'il vise à mettre en évidence ?
Oui, alors c'est beaucoup moins sophistiqué que ce qui vient d'être présenté autour de cette table. Mais depuis 10 ans, nous avons développé et breveté Sudoscan, un outil non invasif, simple, basé sur la mesure de la concentration en ions de la sueur, tel que l'ion chlorure. Donc le patient met simplement ses mains et ses pieds sur des électrodes qui jouent 3 rôles. Premier rôle, c'est un petit courant électrique qui permet de stimuler les glandes sudoripares. Deuxième rôle, ce petit courant électrique continue, polarise la sueur, ce qui permet d'attirer les ions vers les électrodes qui sont alternativement négatives et positives. Et ensuite, ces électrodes réagissent avec ces ions pour créer une réaction électrochimique qui est proportionnelle à la concentration en ions. Toutes les données sont stockées pendant cette réaction électrochimique pour analyse ultérieure.
Alors, le principe d'utiliser les sécrétions sudoripares pour détecter certaines neuropathies, c'est un principe ancien. Par contre, l'innovation en ce qui vous concerne, c'est la manière dont vous accédez à ces mesures.
C'est ça. Le principe a été défini et développé par la Mayo Clinic il y a 25 ans aux États-Unis, mais c'était une méthode classique de provoquer la génération de la sueur, collecter un échantillon de sueur et l'analyser dans un laboratoire chimique, donc dans un environnement contrôlé, en hygrométrie, en température, etc. Nous affranchissons de tout ça, faisons le diagnostic et délivrons le résultat en moins de 2 minutes, sans opération très sophistiquée. Les maladies qui permettent d'être diagnostiquées, ce sont en fait les neuropathies, c'est-à-dire les maladies des petits nerfs. La première cause de neuropathie, c'est le diabète. On ne le sait pas forcément. La connaissance scientifique est assez récente. Les publications sur le sujet datent de quelques années seulement. Mais il y a également la chimiothérapie, la mucoviscidose, la maladie de Parkinson, etc.
Alors en termes d'innovation, vous avez insisté sur la méthode de mesure, mais il y a aussi un aspect fouille de données, c'est-à-dire que la pertinence de l'analyse faite par votre appareil est liée à la capacité qu'il a à fouiller dans un nombre de données de plus en plus grand au fur et à mesure qu'un plus grand nombre de patients est traité pour aller documenter des écarts à ce qu'on appelle la normale. Quoi.
Voilà. Alors, la technique de mesure a été validée elle-même avec une étude financée, cofinancée par le CNRS à l'école de physique chimie de Paris. Et ensuite, c'est vrai que les données acquises grâce à cette, notre technologie ne prennent leur signification qu'une fois comparées à une base de données, je dirais, calibrée, qui s'est construite au cours du temps par de nombreuses études cliniques dans différentes parties du monde, évidemment, pour s'assurer qu'il n'y a pas de biais selon les populations, etc. Mais heureusement, tout le monde a le même système nerveux sur Terre, donc il n'y a pas de biais significatif d'une population à une autre.
Alors cet appareil, il est déjà commercialisé, c'est une innovation au présent. Combien d'appareils sont déployés de par le monde ?
Alors, on a vendu actuellement un peu plus de 2000 machines dans le monde. Ça s'adresse en priorité évidemment aux diabétiques, c'est notre premier créneau visé, puisque ça permet de suivre finement et à l'échelle individuelle, hein, on parle de médecine individualisée de nos jours, donc ça permet de suivre le traitement, l'efficacité du traitement du diabétique et de diagnostiquer de façon précoce l'évolution négative en général, donc l'apparition des complications. Sachant que les neuropathies sont asymptomatiques dans plus de 50% des cas, en général, elles sont détectées trop tard. L'utilisation de FudoScan pourrait éviter, par exemple, une partie des 10 000 amputations qui ont lieu chaque année en France uniquement. Vous imaginez le coût social qui serait facilement évitable en détectant de façon précoce ces évolutions négatives.
L'appareil fonctionne en routine puisqu'on peut le trouver dans le commerce. Est-ce que pour autant il y a une activité de recherche et développement dans votre société ?
Alors, c'est ça. On parlait de fouille de données tout à l'heure. La beauté de cette méthode de fouille de données, c'est d'être extensible. Donc, plus la base de données s'enrichit de nouvelles données, plus Impeto peut affiner ses algorithmes de détection et de diagnostic et nous permettre d'ajouter de nouvelles pathologies à notre arc. Je dirais. Le test FudoScan est évidemment idéal pour les politiques de prévention, pour assurer un dépistage précoce de ces prédiabètes. La population de prédiabétique aujourd'hui est inconnue. Elle est estimée simplement puisqu'il n'y a pas de méthode de diagnostic précoce suffisamment facile à déployer. Alors, donc en Chine, par exemple, c'est notre première application, c'est la prévention du diabète et du prédiabète, détection du prédiabète, puisque la progression dans les pays en voie de développement, la progression de cette maladie du 20e siècle, du 21e siècle maintenant, croît beaucoup plus vite que dans nos pays industrialisés où la situation est un peu plus stabilisée.
Alors après ce grand tour de table qui montre la diversité des innovations aujourd'hui qui sont faites en santé, je voudrais vous poser une question à tous. Vous me direz qui veut répondre. On a un peu l'impression, comme ça avec les mains, que le développement de la médecine depuis toujours est porté par le développement des techniques, des technologies. Est-ce que pour autant, selon vous, on vit aujourd'hui une époque particulière vis-à-vis des capacités d'innovation en santé ? Qui veut répondre à cette question ?
Je vais peut-être dire un premier mot.
Anne-Virginie Salsac, je vous en prie.
Oui, mais justement, parce que je pense que ce qui permet à l'heure actuelle qu'on ait beaucoup d'innovation, c'est qu'on a vraiment développé une idée de travail en collaboration et d'interdisciplinarité. Et je crois que le terreau, il est là-dessus. Et on a déjà dit à quel point il fallait aller de l'amont, vraiment, si on veut qu'une innovation se fasse, il faut accoupler du fondamental, aller de l'amont avec avancer les techniques de la science de tous les jours, dans tous les domaines que ce soit, en se communiquant, parce qu'on a chacun des domaines de compétences et on amène des regards différents suivant d'où on vient avec notre vécu et nos backgrounds scientifiques. Et tout ça, le coupler et aller aussi bien vers le patient, et il faut faire toute la chaîne jusqu'au patient, et la chaîne aussi vers tout ce qui va être dispositif mis sur le marché, et donc vers le domaine de l'innovation Donc je pense qu'il faut vraiment avoir cette chaîne complète et sans ça, on n'a pas d'innovation.
Et c'est ça qui est nouveau aujourd'hui, c'est que cette chaîne existe.
C'est ce que vous dites. Je pense que cette chaîne existe et qu'on est conscient de tout ce qu'il faut pour favoriser les choses. Et je crois qu'on est tous en attente aussi de plus de complémentarité, de pont entre nous, de symbiose entre les instituts de recherche, les universités, le privé et tout le monde clinique. Et c'est seulement en ayant tout ça qui fonctionnera qu'on arrivera vraiment à utiliser l'excellence de la recherche française.
Dominique Collard, sur cette même question, est-ce qu'on vit un moment particulier de l'innovation en santé ?
Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça et tout à fait d'accord avec Anne-Virginie. Donc, Anne-Virginie expliquait comment donc, on peut aller de la physique, de l'ingénierie, etc., donc, pour aller vers la médecine. Je vais pouvoir dire peut-être de l'autre côté. Il y a également une écoute qui est beaucoup plus importante des biologistes aujourd'hui, des thérapeutes aujourd'hui, qui sont ouverts à cette technologie il y a quelques années. Chacun était dans son domaine, etc. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un continuum, une avancée au niveau des sciences dures, je dirais, une écoute au niveau de la thérapie. C'est ce continuum qui fait qu'on vit aujourd'hui une vraie révolution.
Je vous vois opiner du chef à l'autre bout de la table. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose, Stéphane Régnier ou Dominique Andrès, Emmanuel Andrès.
Oui,
Stéphane Régnier.
Oui, moi je confirme que depuis quelques années, moi je travaille à l'université Pierre et Marie Curie, et on a à la fois la science et la médecine, et on a vraiment des interactions directes, dans le quotidien même, de plus en plus, et c'est vraiment à partir de ces interactions qu'on va pouvoir trouver des solutions technologiques à des problèmes. Et je crois que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y a deux approches, et que ces approches, elles sont en train d'arriver ensemble. C'est une approche qui est, comme moi, plus un problème fondamental, et puis après, j'essaye de regarder l'application, ou une approche plus l'application, et je regarde comment le résoudre, et que là, on tend l'un vers l'autre de plus en plus, et je pense que c'est très important.
Jean Collin ?
Oui, toujours dans le même ordre d'idée, je pense aussi qu'il faut toujours associer plusieurs partenaires. Dans un laboratoire de recherche, pour un peu caricaturer les choses, on va savoir faire un prototype, vous voyez ? Ce prototype, c'est pas l'appareil qui va être utilisé en routine clinique. Donc très 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 vite, dès qu'on a une idée comme cela, il faut que l'on s'associe avec des industriels du domaine qui seront en mesure de le développer pour qu'il soit utilisé en routine. Je connais des tas d'appareils extrêmement brillants qui aujourd'hui meubles sont dans des armoires et ne servent à rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu toutes ces étapes. Donc il nous faut le laboratoire de recherche, il nous faut l'industriel du domaine ou les industriels du domaine qui sont capables de rendre ce produit de routine qui sera utilisé en routine clinique. Et ça commence à se faire de plus en plus. Et là, je trouve que c'est un point très important.
Nicolas Boquet, peut-être deux, trois mots sur cette question, vous qui avez justement porté une innovation jusqu'à sa commercialisation.
Oui, justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. De manière générale, les outils technologiques et l'évolution rapide de la connaissance et du travail en groupe permet à un créateur de développer plus facilement une innovation, mais le parcours du combattant pour en faire un produit commercialisé sur le marché et ne fait que commencer. Autrement dit, la barre est plus basse pour créer de nouveaux produits grâce à la technologie, mais la barre est plus haute pour arriver à commercialiser, d'autant plus à cette époque de l'Internet, la concurrence est internationale. Avant, il y avait peut-être trois équipes en France qui travaillaient sur la même chose. Maintenant, il y en a 30 dans le monde qui visent la même application et le même marché. Et dans le secteur médical, c'est encore plus difficile que dans d'autres domaines, puisque là, il y a une barrière à l'entrée énorme sur les agréments, les autorisations de marché, les brevets, un peu partout, mais aussi donc les normes à satisfaire dans chaque pays différemment.
En tout cas, d'énormes promesses à vous entendre tous. Alors pour finir cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Reboul. Bonjour. Vous êtes la présidente fondatrice de l'association Skin, qui est une association qui s'adresse aux personnes atteintes d'un cancer du sein après le retour à la maison, si j'ai bien compris. Et l'idée, c'est que pour les aider dans leur reconstruction, y compris psychique, vous associez ces personnes avec des artistes. Alors on n'est pas dans l'innovation technologique, mais d'une certaine manière, on est aussi dans l'innovation médicale. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'objet de cette association Skin, la peau ?
Oui, bonjour. Skin, déjà le choix du mot skin m'est venu naturellement à l'issue de mon propre cancer du sein en 2007. parce que j'ai constaté que loin de se cantonner à un sein, le cancer du sein touche l'intégrité de la personne, son identité et sa féminité. Donc c'est bien plus qu'un sein, évidemment. Et la peau, pour moi, c'est l'organe qui se régénère le plus vite. C'est celui qui fait barrage contre les agressions extérieures. C'est celui qui signe aussi, qui jalonne à l'aide des cicatrices votre vécu. Et c'est celui qui vous permet d'aller mieux. Donc l'idée, c'était de créer Skin après mon cancer du sein parce que je me suis aperçue qu'après la bataille, on compte ses blessures. Ça n'est pas tant pendant les traitements qu'après, quand on rentre chez soi, qu'on a besoin d'aide. Pendant les traitements, les jours sont scandés par les médecins. On est entouré. Quand on a de la chance d'avoir de la famille et des amis, on est entouré également par la famille et les amis. Et puis tout d'un coup, après une ablation, après de la chimiothérapie, de la radiothérapie, on vous dit « ça y est, tout est fini, tout est derrière toi, tout est comme avant ». En réalité, c'est là que ça commence. Et on se retrouve chez soi un peu comme avec un énorme baby blues et on est complètement démuni. On n'est plus celle qu'on était avant et on n'est pas encore celle qu'on va être après et on ne sait plus qui on est. Donc l'idée, moi je suis passée par là, j'ai eu la chance d'écrire des billets d'humeur et de faire la rencontre d'une photographe qui s'appelle Karine Zibaud. Et à cette époque, je lui ai dit, écoutez, voilà, je fais le pari de me reconstruire, est-ce que vous me suivez ? Elle m'a dit oui. Elle a commencé à me filmer et puis à prendre des photos et puis on a travaillé ensemble pendant 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Et à l'issue de ce travail, je me suis aperçue que je m'étais reconstruite en mettant mon image à distance. Et grâce au regard bienveillant que Karine Zibaud a porté sur moi. Et je me suis dit, voilà, ça c'est mon histoire, mais comment faire pour les autres? Je vais leur proposer la même chose, ça a été un pari. Et l'idée, c'est de présenter un artiste à une femme ou à un homme, puisque 1% des hommes sont touchés par le cancer du sein, à l'issue de son cancer, et en fonction de sa sensibilité. Donc ça peut être évidemment un photographe, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un designer, un parfumeur, un nez, ça nous est arrivé, un danseur, un chanteur. Et l'idée, c'est de former un binôme. Cet artiste a un peu le rôle de la maman avec l'enfant. C'est celui qui va reconnaître, qui vous reconnaît le droit d'aller mal et qui vous porte un regard bienveillant. Donc ensemble, l'idée, c'est de créer une œuvre d'art. La femme ou l'homme peut être la muse de l'artiste ou élaborer intellectuellement le projet avec lui ou mettre la main à la pâte, ou les trois à la fois. Et chaque binôme va prendre le temps qu'il voudra, se verra à l'endroit où il le souhaitera pour faire cette œuvre d'art. À l'issue de ces créations, nous, on va les exposer et on va les vendre dans une galerie, dans une mairie, pour les offrir à ces femmes ou à ces hommes qui les ont co-créés et inspirés. L'idée, c'est d'abord, dans la création, de prendre du plaisir. Créer, c'est prendre du plaisir. Mais c'est aussi pouvoir se projeter. À l'issue de ces longs mois de création, cette femme ou cet homme s'est consolé. Puis, c'est une boucle qui se boucle. Le fait d'exposer ses œuvres et de les vendre, c'est une forme de récompense symbolique.
Combien de personnes sont passées par votre association ?
C'est un peu du sur-mesure. Chaque année, on s'occupe à peu près de 20 binômes. Ça prend beaucoup de temps. Et après, l'idée, c'est de prendre en photo ces œuvres et d'aller les exposer dans des services de cancérologie du sein. D'ailleurs, à Curie, on est à Curie, entre autres. Pour que ce soit vu par les femmes qui commencent leur traitement. Donc une femme se console, se répare, puis tend le relais à d'autres qui commencent leur traitement. C'est une façon de leur dire « rassurez-vous, tout ira bien, et puis on est là ».
Pour contacter votre association, la meilleure façon, peut-être vous avez un site internet.
Oui, alors c'est de www.s-6k-i-n.fr. ou par téléphone au 06 13 43 84 08.
Merci beaucoup Cécile Reboul. Comme quoi l'innovation en santé peut prendre des chemins tout à fait originaux. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous, Emmanuel Andrès, Nicolas Boquet, Jean Collin, Dominique Collard, Stéphane Régnier, Anne-Virginie Salsac et Cécile Reboul. Merci de nous avoir accompagnés à cette table ronde sur les nouvelles technologies pour la santé. Je vous rappelle que l'intégralité de cette discussion est désormais podcastable sur le site internet wikiradio.cnrs.fr. Merci à tous pour votre attention. À bientôt, au revoir.
Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.